Premièrement, les femmes. Vous vous rappelez que dans la démocratie athénienne, les femmes ne sont pas citoyennes et il y a une légende qui justifie ceci. Au XIXe siècle, la religion est en recul, mais la science, à son tour, va servir d'alibi pour refuser aux femmes le titre de citoyenne active, c'est-à-dire pour leur refuser le droit de vote. Pendant la Révolution française, Olympe de Gouges avait revendiqué les droits de la femme et de la citoyenne, et donc le droit de vote. Elle a fini sur l'échafaud. Au XIXe siècle, d'autres femmes luttent pour obtenir ce droit de vote. C'est par exemple Flora Tristan, qui a vécu de 1803 à 1844, et qui s'était exprimée et qui a écrit dans l'Union ouvrière contre la condition des femmes asservies, soumises à leur père quand elles sont mineures, soumises à leur mari lorsqu'elles sont majeures. C'est aussi le cas de Jeanne de Rouen, qui s'est présentée aux élections en 1849, alors que c'était tout à fait interdit. C'est une stratégie de présenter des femmes aux élections alors même qu'elles n'ont pas le droit de vote, pour mieux montrer l'absurdité, l'injustice de cette situation. Par exemple, dans les années 30, en France, le Parti communiste français fut le premier parti à présenter des femmes sur les listes aux municipales. Quels sont les arguments utilisés pour refuser le droit de vote aux femmes? Eh bien, on les accuse d'avoir un cerveau plus faible que celui des hommes, d'être destinée par la nature à des tâches de reproduction, de soins de la famille et surtout pas aux affaires publiques. En fait, à de rares exceptions près, quelle que soit leur couleur politique, les hommes du XIXe siècle dénient aux femmes la capacité de réflexion qui serait nécessaire à émettre un vote en conscience. Les républicains se méfiaient particulièrement du vote féminin, car les femmes étaient réputées plus influençables et donc plus susceptibles d'être influencées, par exemple, par le curé lors de la confession et donc d'influencer le vote d'une façon qui n'irait pas dans le bon sens. La Première Guerre mondiale, dans de nombreux pays d'Europe et aux États-Unis, les femmes obtiennent le droit de vote, mais en France, il faudra attendre 1944 pour qu'enfin elles puissent exprimer leur suffrage lors des élections de 1940. L'élargissement de l'assise démocratique aux femmes a donc été une longue lutte. Cependant, la question de l'élargissement de la démocratie à toutes les catégories de la population ne concerne pas seulement les femmes, mais également les étrangers. Vous vous rappelez que dans la Grèce antique, le métèque, c'est-à-dire celui qui n'était pas né à Athènes, était exclu de la citoyenneté. La France coloniale est pleine d'ambiguïté, elle accordait des droits aux habitants de la métropole qu'elle refusait aux populations colonisées. Il n'était pas question de laïcité et de vote à égal poids avec les habitants de la métropole pour les habitants de l'Indochine, de l'Algérie, de l'Afrique équatoriale française, par exemple, au XIXe siècle jusqu'à la fin de la période coloniale, c'est-à-dire dans les années 1960. La question de l'âge aussi auquel on peut voter a longtemps fait l'objet de débats. Le droit de vote a longtemps été fixé à 21 ans, il n'a été abaissé à 18 ans qu'en 1974, sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. On voit donc que progressivement, le droit de vote a été élargi aux femmes, aux jeunes entre 18 et 21 ans, et même à une partie des étrangers, puisqu'aujourd'hui, les étrangers communautaires, c'est-à-dire ceux qui ont une nationalité d'un des États de l'Union européenne, peuvent voter aux élections européennes et aux élections municipales.